Amis de Radio Silence, bonjour. L'élection américaine se termine, enfin l'élection, la primaire américaine se termine dans une semaine et la Californie est devenue le haut lieu d'une bataille héroïque qui va déterminer qui de Sanders ou de Hillary Clinton sera le prochain nominé, parce que celui qui va gagner la Californie gagnera certainement la convention, puisqu'il y a beaucoup de délégués en jeu. Et voilà, Hillary Clinton, si on veut faire l'état des lieux rapidement, hein, bon, du côté des républicains, il n'y a vraiment plus de campagne depuis que Trump a gagné haut la main, mais ils ont un problème. C'est que le parti républicain ne reconnaît pas de légitimité à M. Trump, qui ne fait pas partie du parti. Un peu, c'est un outsider qui est venu comme ça et qui a raflé la mise sans que les autres ne comprennent comment tout cela leur est arrivé. Mais en fait, par la suite, ils ont très bien compris le message. C'est-à-dire qu'on en a un peu marre de cet establishment qui fait ce qu'il veut, qui fait toujours, comment dirais-je, ils font semblant de faire la politique, ils s'engagent à faire ci, à faire ça, et puis à l'arrivée, ce sont des gens qui sont comme des chevaux de course, sponsorisés par les acteurs de Wall Street et tous les millionnaires et milliardaires, qui finalement après leur donneront des instructions pour la politique à suivre au niveau du Congrès, et donc tout cela se fait au détriment du citoyen américain qui a quand même là envoyé un message fort, stop. Du côté des républicains, tous les candidats bien encartés, hein, les caciques, sont sortis et puis Trump il est resté là, mais il a un souci parce que le parti ne le reconnaît pas, il menace même peut-être de faire un parti à lui pour pouvoir se présenter lui tout seul, parce que vraiment le parti républicain ne digère pas ce que eux ils appellent une victoire quand même pas très nette, parce que il a joué sur le populisme pour faire court d'après eux, et puis voilà, ça passe pas, hein. Les républicains ont donc ce problème là, mais ça c'est leur sauce qui m'intéresse moi très peu. Ce qui m'intéresse plus c'est le côté démocrate, parce que monsieur Trump, déjà là, pour en finir avec monsieur Trump, puisqu'on fait l'état des lieux, c'est la dernière semaine, monsieur Trump a refusé un débat avec monsieur Sanders. Là il a commis probablement la seule faute de sa campagne, en dehors du moment où il a parlé des Mexicains comme des violeurs, mais ça c'était le lancement de la campagne, il ne faut pas non plus trop lui en vouloir, il débutait. Sanders, vraiment le débat contre Sanders aurait été intéressant, parce que là pour une fois, on aurait vu, comment dirais-je, on aurait démasqué un peu plus M. Trump, parce qu'on ne sait pas très, on ne sait plus très bien où est-ce qu'il en est du côté des valeurs sociales. Il fuit, il répond pas vraiment parce que il peut être piégé à tout moment aussi. Les médias n'ont pas été tendres avec lui, mais ça fait, enfin je vais dire, il est déjà habitué. Sanders donc, qui moi m'intéresse le plus, a connu la même situation des médias qui ont snobé au départ, puis ont essayé de saboter. Et puis finalement, ils essayent plus ou moins de s'en accommoder, tant bien que mal, parce que pour eux, Sanders, c'est un imposteur dans la mesure où il ne rentre pas dans le schéma médiatique. Bon, moi j'ai retenu deux textes comme ça qui m'ont vraiment frappé à l'œil. Ce sont des textes qui sont envoyés par Eurasia Review, un site qui fait qui fait une très bonne sélection, parce que là, ce n'est pas les médias de Google ou de Yahoo, hein, une réflexion un peu plus poussée. Et on a ce sondage qui est arrivé qui dit que 27% d'Américains, des électeurs, Ils comprennent pas le système de la primaire, comment ça marche. C'est incroyable, hein, alors qu'ils votent. Et 44% ne comprennent pas, et ça concerne directement le Parti démocrate, pourquoi les délégués sont impliqués dans cette élection alors que les électeurs donnent déjà leur voix, un peu comme s'il y avait une superstructure qui venait s'imposer comme ça par-dessus le vote des citoyens. Ils ne comprennent pas. Bon, ça pose la question quand même de savoir si 27% d'un électorat, c'est quand même presque un tiers, ne comprend pas comment le système des primaires marche et qu'ils y vont, c'est quand même grave. C'est grave parce que ça montre que la presse, voilà, n'a pas fait son travail d'éducation ou d'information. Ça montre que aussi, ce qui est grave, c'est que les politiques et les intellectuels n'ont pas fait le même travail. Et ça, c'est plus grave encore que les médias, parce que les médias, ils ont un autre projet, ils sont engagés dans une autre structure, enfin une autre, d'autres procédures. Bon, c'est plus, on en parle après. Donc, les intellectuels, le retrait des intellectuels. Alors, pourquoi les intellectuels se sont retirés du rôle éducatif public qui était le leur? Ça, c'est une question importante qui est posée par ce sondage. Et quand on va voir à fond, au fond, pardon, on se rend compte que c'est très lié à la question du livre, de l'édition du livre. Vous savez, quand vous êtes à l'université, on vous demande, lorsque vous voulez postuler, lorsque vous voulez aussi faire valoir votre statut de professeur, je ne sais pas, assistant, je sais pas, tout ça, vous devez faire valoir des publications. Vous avez publié quoi? C'est très important. Et si vous avez publié des livres, c'est très, très, très important. Alors, le marché du livre pour les universitaires, c'est un souci. Comment on y arrive? On est obligé de passer par les médias. Parce que c'est les médias qui vont probablement vous ouvrir la porte de l'édition, puisque l'éditeur ne peut investir sur vous que dans la mesure où vous vendrez quand même quelque chose. Et pour vendre ce quelque chose, vous devez être ami, enfin ami, soumis aux médias. Et c'est une double contrainte qui tient les intellectuels et qui les a maintenus comme ça un peu en servitude face aux médias. On arrive à quelque chose d'assez curieux, où ce sont les médias, des gens qui ont un niveau inférieur aux intellectuels, qui décident de quel livre et de quel intellectuel sera publié ou pas. C'est vraiment le monde à l'envers. Et je veux dire, c'est comme si c'est l'élève qui venait décider du sort du maître. C'est incroyable. Il venait lui dicter qu'est-ce qu'il devait publier ou pas. Il y a cette question-là qui fait qu'après, vous ne pouvez pas passer en tant qu'intellectuel à la télévision ou dans les radios partout, et si vous n'êtes pas soumis comme un esclave à la secte des médias. Mais les médias, pourquoi ce rôle aussi? Parce que les médias, c'est facile de dire les médias. Les médias, qui est derrière les médias? C'est la vraie question. Derrière les médias, on va prendre un exemple. L'exemple que j'ai pris, j'en ai parlé. Vous avez des fabricants d'armes comme Dassault. Quand Dassault tient un média comme Le Figaro, ou quand dans des médias on a des actionnaires comme aux États-Unis qui sont de Wall Street, ce sont des banquiers, ce sont des hommes d'affaires. Ces gens-là, ils ont quoi en tête? C'est de faire la guerre. Et quand ils font la guerre, je veux dire, un fabricant d'armes, il vend quand même ses rafales. Il les fait pas pour les garder dans son stock. Il les vend. Et pour qu'il continue à avoir de la commande, il faut qu'il y ait la guerre et que ces armes-là servent. Ou plutôt qu'on vende ces rafales à d'autres pays, lesquels pays on irait inciter la guerre là-bas pour que ça se consomme. Forcément, par la suite, les médias deviennent quoi? Des sous-traitants, des agents qui font la propagande de cette guerre, de cette économie de la guerre larvée, qui ne dit pas son nom, j'appelle ça une économie de la mort, dont les médias ne sont rien d'autre que cela, des porte-paroles, des hommes d'affaires planqués du côté de Wall Street. Voilà, on arrive à la question centrale. Qui gêne cette campagne. Sanders a dit qu'il toucherait jamais à l'argent des gens de Wall Street et à l'argent des millionnaires parce que précisément c'est l'argent du crime. Et maintenant que nous sommes en Californie, on y adjoint à ces crimes un niveau supérieur qui est celui de la haute technologie. Alors, la haute technologie et le QG de cette haute technologie, effectivement, on ne peut pas y couper là, on y est en plein cœur, c'est la Silicon Valley, c'est en Californie, Et donc, voilà, nous sommes en plein, j'allais dire, dans la gueule du loup. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, la technologie Google, Yahoo, ce sont eux les grands agrégateurs. Et vous savez, donc, on a les médias déjà qui nous pompent l'air parce que sponsorisés par les fabricants d'armes. Mais en plus de cela, on a la strate supérieure qui est dans celle de Google et Yahoo qui font le rôle d'agrégateur. Alors, Google et Yahoo et Twitter et Facebook, voilà, si le quatuor, qu'on pourrait appeler ici la grosse Bertha, hein, mais c'est vraiment le quatuor qui surprend beaucoup parce que hier, c'est le deuxième article que j'ai retenu, hier ils se sont entendus avec l'Union européenne pour mettre en place un système permettant, enfin un système d'effacement de ce qu'ils appellent le discours qui fait la promotion de la haine, le hate speech, qui apparemment serait interdit dans l'Union européenne. Je ne sais pas depuis quand, mais je l'ai appris là. Et parmi les raisons, voilà, je vois l'article, hein, parce que c'est quand même incroyable. Il y avait des réunions qui se passaient, ça se passe là depuis environ depuis décembre, il paraît, hein, 2015, que ces choses-là se font dans le dos des gens, on ne sait pas. Et puis hier, c'est sorti, oui, voilà, ils se sont entendus pour faire effacer du web tout ce qui peut promouvoir la haine, tout ce qui peut inciter au terrorisme, etc., etc. Mais quand vous lisez l'article, vous voyez quoi? Vous voyez premièrement que on a parlé d'un code de conduite. D'un code de conduite. Code de conduite, pardon, parce que on est quand même en Europe. On va pas oublier Murdoch. Murdoch a fait une presse pendant longtemps qui n'avait d'autre but que de casser les hommes politiques et d'espionner tout le monde. On n'avait pas entendu l'Union européenne. Hein? Non, on n'a pas entendu Google ni Yahoo, non, ni Microsoft. Non, c'est parce que voilà, ce sont des frères quelque part, et donc ça se protège entre eux. Et après, on se plaint. Mais allons plus loin, laissons de côté cela. On arrive. De toute façon, ces choses-là sont permises parce que d'abord, la France. Elle a voté une loi scélérate qui est sa loi du renseignement qui permet de d'espionner tout le monde, d'écouter tout le monde, de suivre tout le monde de façon totalement dictatoriale, fasciste, j'allais dire, et sans que personne ne fasse rien, ne plus, la justice n'est même pas consultée. À partir du moment où on a ouvert cette boîte de Pandore, évidemment, on arrive à ces choses-là où Google et Yahoo, qui sont là pour promouvoir sur un deuxième plan, c'est une superstructure médiatique qui fait quoi? Qui vous propose un référencement de l'information, mais en fait, c'est encore un autre niveau de tricherie où c'est encore toujours les mêmes que vous allez retrouver qui sont référencés aux mêmes positions, les premières places, qui trustent ces premières places-là, sans même qu'on puisse dire que c'est parce que leurs articles sont plus pertinents, mais c'est un business économique qui fait que le lecteur étant paresseux, il va cliquer sur les premières réponses lorsqu'il fait une requête et finalement les sites vont engranger plus de lecteurs, lequel lectorat va apporter plus de recettes publicitaires. Vous voyez, c'est le même jeu, hein. Et quand vous allez derrière, vous allez trouver que cela forme une certaine forme d'ethnicité qu'on ne veut pas reconnaître, mais c'est cela, et l'économie devient ethnique. Alors, c'est fort de café quand après vous voyez que la loi, c'est mentionné dans l'article, la loi européenne donc va punir, demande aux États de punir tous les discours et tous les speeches, hein, bon, les écrits, qui incitent à la violence ou à la haine, soit parce qu'elles font appel à la race, à la religion, à la nationalité ou à l'ethnicité de la personne qui serait mise en question. Bon, là, je m'arrête, je saute tout de suite, je dis, mais voilà le type même de discours ambigu qu'on a utilisé longtemps et qui cache tout et rien. On ne peut pas attaquer quelqu'un sur sa race. La race, c'est quoi? On est blanc ou on est noir? Je veux dire, tout le reste, là, c'est de l'extravagance. On est blanc ou on est noir? Si tant est même qu'il y a une race, puisque les anthropologues disent non. Mais disons qu'il y a deux types fondamentaux, il y a les blancs et les noirs d'un côté. Qui est-ce qu'on va attaquer? Quand vous dites que vous êtes noir, je vois pas le problème. Quand vous dites que vous êtes blanc, je vois pas le problème. La religion, c'est pareil. Vous êtes musulman, vous êtes chrétien. Je vois pas en quoi ce sera attaqué. La nationalité, c'est encore pire. C'est tout à fait neutre. Que vous soyez, je sais pas, nationalité Israël, c'est pas si on est nationalité quoi, juive peut-être. Que vous soyez camerounais, que vous soyez français, je vois pas le problème. L'ethnicité, c'est quoi? Si, ça, c'est ça, c'est toutes ces choses-là. Quand vous dites qu'on va attaquer les gens par rapport à ça, derrière, il y a toujours ce discours qui n'est pas dit ou une certaine nationale, je veux dire, quand un État est national comme Israël et en même temps se veut un État racial, ça marche pas. Ça, c'est leur problème. Après, ils se sentent attaqués. Et derrière cela, il y a la dictature qui s'installe de façon insidieuse, pardon. Et puis, vous avez la censure. Et puis, qu'est-ce que ça? Alors, je m'arrête à l'ethnicité. L'ethnicité m'intéresse beaucoup parce qu'on voit très bien toujours derrière, on ne dit pas les choses, mais il y a le problème en France des statistiques ethniques à faire. On vous dit maintenant, non, non, vous ne parlez plus de l'ethnicité, parce que ça peut induire au fait que, voilà, on voit bien que les câbles opérateurs, on voit bien que les médias, ceux qui possèdent les médias, on voit bien que presque toute l'économie de l'armement est prise et entre les mains de la même ethnie, s'ils veulent qu'on fasse ces statistiques-là. Donc, il faut empêcher les statistiques ethniques. Parce que nous sommes ici en train de parler d'un débat sur la discrimination, mais au-delà, si on va dans l'ethnicité à fond, on va retrouver ces grandes catégories-là qui font que un certain peuple élu s'est arrogé tout, en corrompant le monde, et il faut surtout pas qu'on voit ces choses-là parce que c'est interdit, ça va être de la discrimination. Et voilà comment on arrive à tordre les choses, à faire empêcher les choses de se dire, empêcher les choses de se faire. On va plus loin. L'ethnicité. J'ai même envie de dire l'ethnologie. On rentre là dans le cadre de l'économie. Nous sommes plusieurs à commencer à revendiquer qu'il y ait une base, ou plutôt pas qu'il y ait, de dire que l'économie a une base ethnologique. C'est évident. C'est pas racial, c'est ethnologique, c'est évident. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'équilibres qui, lorsqu'ils ne sont pas là, posent quand même la question à la fois de l'éthique, de la justice et de comment fonctionne le libéralisme économique. Quelque part, il y a une triche et cette triche se fait au niveau de Wall Street, qui va donner des crédits bancaires à justement des personnes de voilà, la même ethnie. Pour protéger voilà, la fable du peuple élu et protéger une certaine suprématie. C'est des choses qui se disent pas parce que c'est au niveau ethnologique. Après, il faut les dire, ces choses-là, parce qu'à un moment donné, le malaise social est tel qu'on ne va pas pouvoir supporter tout cela longtemps. On va les dire, peut-être qu'on le dit fort, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nous empêcher de le dire. Ça n'incite la violence en rien du tout, ça incite au débat. Et quand il y a un débat, il faut répondre par le débat. Je suis désolé, je suis très bien placé pour savoir que tout ce qu'on dit sur la radicalisation et la violence, c'est excessif. C'est excessif parce que quand moi je parle de dératisation, la dératisation, on dit un rat, il ne faut pas l'utiliser, mais le rat, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça a à voir avec des comportements. Si vous venez espionner quelqu'un chez lui sans sa permission, vous venez installer des caméras, vous venez voler tout ce qu'il fait, vous êtes un rat, parce qu'un rat, c'est un voleur. Voilà, dans des choses comme ça, après on ne pourra plus prononcer les mots parce que tout de suite on va vous renvoyer à l'histoire, on va vous mettre hors sujet, on va vous déporter de la chose, alors que ces gens-là, ils sont coupables de domination abusive, ils sont coupables de geler la compétition en faisant que non seulement ils s'accordent des crédits entre eux, mais ils excluent tous les autres sur les bases précisément ethniques qu'ils dénoncent. Alors on prend prétexte sur les attaques de Paris, les attaques de Bruxelles. Oui, j'ai envie de dire, je rigole un peu. On sait très bien que ça, c'est le retour à l'envoyeur de toutes les saloperies, excusez-moi du terme, qui ont été faites en Libye, qui ont été faites en Syrie, qui ont été faites en Irak, en Afghanistan, etc., etc. L'Europe reçoit en retour ce qu'elle a semé, mais comment elle réagit? Au lieu d'être sincère avec elle-même, elle continue, enfin, elle adopte un chemin, un cheminement de pensée qui est vraiment passé longtemps, longtemps de date, parce que ça nous rappelle l'Inquisition, hein. L'Inquisition, ça pouvait être quoi? Si vous dites quelque chose qui ne va pas dans le sens du politiquement correct, vous vous souvenez, hein? Galilée, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il était un imposteur, qu'il mentait, on l'a emprisonné, on lui a demandé de choisir entre se démettre ou mourir. Voilà, à ce jeu-là, on coupe la créativité, et c'est ça le but, on coupe l'innovation, on coupe le progrès et on fait en sorte que la même ethnie se maintient au sommet du monde et à la direction des choses du monde. Et ça ne peut pas marcher, ce n'est pas acceptable. Donc si Google, Yahoo, Twitter, Facebook, les frères veulent toujours emprisonner les gens et je vais toujours aller, vous allez au niveau du câble, vous trouvez Free, SFR, Bouygues, Orange, toujours les mêmes. Si c'est ça, l'équilibre du monde, ou l'avenir du monde, eh bien, il y aura la radicalisation parce que ce sont eux qui produisent la radicalisation. Et je suis désolé, vous savez leur méthode, hein, l'hypocrisie. Ils ne disent jamais rien. C'est des gens, moi je suis bien placé, je peux le prouver par A pour A plus Z. Quand vous écrivez quelque chose, le plagiat est devenu généralisé, ils viennent, ils le recopient arrogamment et vous n'avez rien à dire, ils ne peuvent même pas vous citer comme référence. Et Google, quand il référence ces choses-là, il va faire quoi? Il va les mettre, eux, au-dessus de vous qui avez écrit la chose en premier. Je veux dire, la malhonnêteté est généralisée. Et pire, quand ils veulent vous insulter, comme ils savent très bien qu'ils sont en train d'édicter leur code bâtard, excusez-moi, et malhonnête, ils vont utiliser des photos pour vous insulter et puis dire que c'est pas vous. Ou des images, détournées. Non, mais c'est pas vous. Oui, toute cette lâcheté du monde-là, on en a marre. Et effectivement, Google peut toujours ne pas référencer les sites qui lui conviennent pas. Il a reçu, hein. Alors ça, c'est intéressant. On a demandé combien de demandes ils ont reçues de la part des États. Donc Google dit que sur la première moitié de 2015, ils ont reçu 20 demandes de l'Italie, 9 de l'Allemagne, une de la Grèce. Puis je sais plus, peut-être qu'il y avait la France, oui, Twitter a reçu 150 demandes pour enlever des postes hein, qui ne leur plaisaient pas, qui ne plaisaient pas à l'État français, de juillet à décembre 2015. La même période, la compagnie a reçu 21 demandes venant du Royaume-Uni et 10 de l'Allemagne. Bon, c'est toujours les mêmes, hein. Vous savez, quand on voit Allemagne, Londres, France, Italie, on est un peu surpris pour la Grèce. On sait très bien quel est le rôle qu'ils ont joué dans la no-fly zone. Ils étaient en tête de ligne et après on a les conséquences qu'on a et puis on va légiférer, je vais dire, à l'abri de la justice. Il y a une justice ici-bas. Si quelqu'un se sent lésé, il va à la justice. Ce n'est pas à Google, ni à Yahoo, ni à Twitter, ni à Facebook de faire la justice, alors même que déjà, ils sont dans une situation qui ne devrait pas exister parce qu'il y a des lois antitrust qui ne sont toujours pas appliquées. Bon, ben, je ne vais pas vous saouler plus que cela parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Sachez seulement qu'on croise les doigts fort pour que Sanders gagne. C'est le 7 en Californie. Et on va lui souhaiter bonne chance. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.